à partir d'un prémisse qui ne s'est pas produit dans notre univers, qui est la succession au niveau de Marc Aurèle. Donc, il imagine qu'au lieu du cruel Commodus, c'est un philosophe avisé qui a succédé à Marc Aurèle, et de là s'en est suivi un certain nombre de réformes, réformes sociales, réformes religieuses, réformes agraires. Renouvier est à ce moment-là de sa vie dans sa période anti-cato. Il n'y aura pas tout le temps cette période-là, parce qu'on présente souvent Renouvier comme un anticlérical, mais il faut se rappeler quand même que sur la fin de sa vie, dans ses écrits, il revient quand même beaucoup, beaucoup sur cette approche. Néanmoins, à cet instant précis, son objectif avoué, quasiment ouvertement, c'est d'expliquer combien la civilisation européenne aurait pu gagner plusieurs siècles de progrès et de vertus si elle s'était, dès le départ, si elle avait éliminé dès le départ de sa sphère l'influence chrétienne. Donc, voilà. Renouvier a peut-être inventé le terme, mais il n'en a pas inventé le genre. D'autres ont fait de l'Uchronie avant lui sans savoir. Et à cet égard, on cite souvent Louis Geoffroy pour avoir écrit en 1836 Napoléon ou la conquête du monde. Louis Geoffroy comme étant certainement le premier, ou en tout cas l'un des tout premiers à avoir écrit un roman, peut-on dire. Je ne sais pas si ça se qualifierait de roman réellement, ce texte. Mais en tout cas, un texte d'une longueur conséquente qui soit 100% uchronique, puisqu'il débute d'entrée sur une divergence de l'histoire. Napoléon est à Moscou, Napoléon rase Moscou, et de là, il continue. De mémoire, il n'y a pas de Bérésina, il n'y a rien de tout ça. Il continue tellement bien qu'il conquiert l'Asie, puis le Japon, puis découvre l'Australie et même son océan intérieur, puisqu'à l'époque où Renouvier écrit son livre, le centre d'Australie n'est pas totalement cartographié. Il revient d'Australie par le Cap. Au passage, il en profite pour mettre sous influence impériale toute l'Afrique. L'Afrique du Sud et même toute l'Afrique complète, puisque certaines de ses expéditions découvrent les sources du Nil. Il résout au passage le scorbut, il résout un certain nombre de choses, puisque rien n'arrête l'empereur. Sur sa remontée africaine, il navigue au large de Sainte-Hélène, et là, alors, je prends toujours cet exemple parce que c'est intéressant, le livre de Renouvier, il a tout inventé, y compris les clins d'œil ou les astuces du genre. Lorsque l'escadre navigue au large de Sainte-Hélène, l'empereur est pris de troubles. Il devient acariâtre, il rentre dans sa cabine, il s'enferme pendant plusieurs jours, il n'adresse pas la parole à ses conseillers. Et puis au bout de plusieurs jours, il en ressort, il demande à ce que l'on rase de tous les feux. Et alors là d'ailleurs, Renouvier est inventif parce que dans les descriptions qu'il emploie, on est en pleine science-fiction, il décrit presque des armes modernes, puisqu'on rase Sainte-Hélène à coups de bombes qui n'existent pas dans son univers, jusqu'à ce que d'ailleurs l'île disparaisse dans un magma incandescent. Et puis après, Napoléon va mieux, puisqu'il a demandé qu'on rase Sainte-Hélène, cette petite île. Alors, c'est intéressant ici, c'est que normalement, dans cet univers-là, il n'y a aucune raison de raser Sainte-Hélène, puisque le Napoléon de cet univers-là ne connaîtra jamais l'exil, ni à Elbe, ni à Sainte-Hélène. Donc, très logiquement, effectivement, on s'attend à ce qu'il passe au large de Sainte-Hélène sans aucun problème. Et donc, Renouvier, là, fait ce qu'on appelle un clin d'œil à son lecteur, le lecteur dont nous sommes. Donc, c'est-à-dire que nous sommes inscrits dans une certaine ligne temporelle, comme dirait les anglo-saxons timeline. Nous savons l'influence de Sainte-Hélène. Donc, par ce jeu que ses conseillers, que ses maréchaux ne comprennent pas, nous, lecteurs, nous jubilons de comprendre pourquoi, à différence des autres personnages, l'empereur a cette petite île. Et au passage, Renouvier aussi rappelle que dans ses cahiers d'école, ça avait été également rappelé par Jacques Van Herme dans une de ses études, dans ses cahiers des colliers, vers l'âge de 13 ou 14 ans, si ma mémoire est bonne, dans un cours de géographie où on parlait de Sainte-Hélène, Napoléon avait écrit en marge « Petite île ». Bon, donc il y a des destins qui sont écrits d'avance. Enfin, donc l'empereur rentre au pays. Évidemment, la monarchie impériale, enfin la monarchie pardon, universelle est imposée sur toute la terre, puisque les États d'Amérique, devant une telle suprématie, se livrent d'eux-mêmes à l'empire hein, carrément. Il n'y a pas besoin de guerroyer. Et donc la monarchie universelle est imposée partout. Le drapeau français flotte du Cap jusqu'au Canada. L'empereur s'ennuie. Et donc la fin du livre est totalement ironique. Hein, quand il n'y a plus rien à faire pour un tyran, finalement, il s'ennuie et puis le système s'écroule de lui-même. Et là, il y a un passage intéressant également. On raconte dans cet univers-là que sous le manteau dans Paris se vend un livre bien étrange, bien entendu interdit par la censure, mais dont les gens se passent d'une main à l'autre, qui décrirait, chose improbable, un autre univers dans lequel l'empereur bien-aimé de celui-là aurait pu chuter dans une sombre bourgade belge du nom de Waterloo. Donc, bon. Alors là, on voit la deuxième figure imposée du genre qui est l'Uchronie dans l'Uchronie, c'est-à-dire deuxième forme de clin d'œil de l'auteur à son lectorat, c'est de retrouver notre univers quelque part par le biais d'une œuvre de fiction dans l'univers de fiction qu'il a lui-même imposé. Donc avec cet ouvrage de Renouvier, que vous pouvez d'ailleurs retrouver aujourd'hui puisqu'il est réédité, je vais refaire un peu de pub, aux éditions Pyrémonde, qui ont eu le bon goût de remettre à jour un certain nombre des premières uchronies, tant le Geoffroy que le Renouvier. On voit à peu près donc tout le genre est bien décrit. Il y a un point de divergence daté, précis. Là, en l'occurrence, c'est devant Moscou. Il y a une description d'un univers qui diverge définitivement d'une autre. Il est totalement indépendant, en ce sens que, je vais aborder ça dans un instant, là nous n'avons ni voyageur temporel, ni univers parallèle au sens physique du terme, d'ailleurs le concept n'est pas encore inventé à l'époque. Donc il s'agit bien d'un univers totalement autarcique, totalement indépendant, divergent d'une autre à partir d'un point, et qui a après ses raisons propres et qui essaye de trouver sa cohérence. Ça me permet de, puisque j'ai dit que je faisais une introduction courte, ça me permet donc de fixer aussi les limites du genre. Alors, donc l'Uchronie, c'est tout ce que je viens de décrire, ça n'est pas l'histoire secrète. Alors, l'histoire secrète, c'est quoi ? Bien, c'est le masque de fer, par exemple. C'est-à-dire, le masque de fer, c'est, dans différents, il y a plusieurs versions, hein, mais c'est le roi est kidnappé, on le remplace par un sosie ou par un frère jumeau. Certaines personnes bien informées le savent. Le commun des mortels l'ignore, l'histoire continue, mais finalement ça ne change rien à l'histoire. C'est ça la différence entre l'Uchronie et l'histoire secrète, c'est que l'histoire secrète, il y a bien un point de divergence, sauf que seules certaines personnes bien informées le savent, le grand public est censé l'ignorer, mais l'histoire n'est finalement pas changée. Exemple également, l'aviateur de Bonaparte, de Jean de Grève. Si Napoléon gagnait autant facilement ses batailles, c'est parce qu'il disposait à l'époque d'un aviateur. Quelqu'un avait inventé le concept avant tout le monde. Bon. Donc, ça lui permettait d'avoir des survols du champ de bataille, d'être informé de la présence de ses ennemis. Évidemment, à un moment donné, dans le roman, si ma mémoire est bonne, l'aviateur a quelques déboires et l'invention est cassée. Et c'est comme par hasard, c'est à ce moment-là que le vent tourne et que l'empereur gagne de moins en moins facilement ses batailles. Donc, tout est cohérent, sauf que personne n'a jamais rien su et que, somme toute, on ne fait que redécrire l'histoire que nous connaissons. L'uchronisme n'est pas non plus le négationnisme. J'emploie le mot négationnisme et pas révisionnisme, puisque je rappelle que même si la presse emploie, à mon avis, un peu à tort et à raison, révisionnisme pour négationnisme, tout historien se doit de faire du révisionnisme. Par contre, le négationnisme, c'est autre chose. Le négationnisme, c'est nier des faits clairement établis historiques. L'objectif de l'Uchronie n'est pas de nier. Il ne s'agit pas de dire les chambres à gaz n'ont pas existé. Il s'agit par exemple d'imaginer un univers Faverland, pour ne pas le citer, de Robert Harris, dans lequel, bien, parce qu'ils ont réussi à mettre l'arme atomique au point avant les Alliés, les nazis obtiennent un statu quo à l'ouest, en rasant, si c'est Londres ou je ne sais plus quelle capitale, donc ils obtiennent donc, un statu quo à l'ouest qui leur permet de continuer la guerre à l'est. Et l'univers donc diverge évidemment d'une autre. Il ne diverge pas d'un point de vue moral pour des des jours meilleurs, mais justement le propos de l'auteur est entre autres de nous montrer à travers un polar, puisque son action se passe en 1964, sous fond de glasnost, il y a une espèce de guerre froide dans cet univers entre le Reich et les États-Unis, donc à cause de la bombe atomique, donc la guerre est restée froide. On rentre dans une période de dégel, puisqu'aux États-Unis, il vient d'être élu un président qui instaure le changement, c'est M. Kennedy. Sauf que ce n'est pas John Fitzgerald Kennedy tel que nous le connaissons, mais c'est son père, Joseph P. Kennedy. Le père Kennedy, pour ceux qui le savent, était ambassadeur des États-Unis à Londres jusqu'en 1941, jusqu'à peu près Pearl Harbor. Il a été rappelé et démis de ses fonctions à ce moment-là parce qu'il avait des positions un peu trop pro-Hitler dans ses apartés et que là, les États-Unis rentraient en guerre et donc l'heure n'était plus à l'ambiguïté. Donc, dans cet univers, effectivement, Joseph P. Kennedy est prêt à faire une espèce de dégel avec Hitler et au demeurant, au nom du dégel, quelque part, à passer sous silence que ses services secrets savent, à savoir que la totalité des Juifs d'Europe ont été massacrés. Dans le plus grand secret, puisque le Reich a réussi à garder globalement l'illusion auprès de sa population et auprès du monde extérieur que ces gens existaient dans des villes ou dans des organisations à l'Est. D'ailleurs, ils ont payé pendant plusieurs années un ministère complet tous les ans, envoyer des cartes de bons voeux aux familles ou à répondre aux familles juives d'Amérique à leurs vœux pour faire croire que ces personnes existaient toujours. Et puis évidemment, année après année, tout s'est tassé, les cartes se sont fait plus rares et le secret est resté. Et donc à travers un polar d'un flic allemand alcoolique, divorcé, une espèce d'épave humaine chargé d'enquêter sur le meurtre d'un haut dignitaire du Reich. On l'a nommé, il ne le sait pas, parce que justement c'est une épave et qu'on pense qu'il va magnifiquement enterrer et rater l'enquête, et d'une journaliste américaine. Bien finalement, on déterre progressivement ce grand secret, puisque justement au nom du grand secret, l'ordre a été donné au plus haut niveau du Reich de flinguer tous les vieux et les retraités qui savent, qui ont participé à la mise au point de la solution finale, de manière justement à éviter toutes les informations ressortent dans la presse. Donc lui, il enquête et au lieu d'enterrer l'affaire, il découvre ça. Et donc à travers lui, le lectorat voit les horreurs pousser encore plus loin que dans notre univers. Et le jeune lectorat éventuellement d'ailleurs apprend des choses, puisque au travers de l'enquête, Robert Harris a pris bien soin de mettre parmi ses personnages la plupart des gens qui étaient à Wannsee autour de la table. Donc il s'est bien documenté, les horaires de train pour Auschwitz par exemple, que découvre à un moment donné le policier, sont les horaires tels que retranscrits dans les annales du procès de Nuremberg, etc. etc. Donc on est loin du négationnisme là, on est au contraire, comme souvent dans l'Uchronie, il y a un message, il y a une volonté. L'Uchronie peut être faite uniquement pour divertir, mais elle peut être aussi faite, et c'est souvent le cas, pour interpeller de la part de l'auteur le lecteur sur un danger qu'aurait notre histoire si elle avait pris un certain cours à être pire a priori que ce que l'on vit aujourd'hui, et quelque part à alerter tout le monde sur le fait qu'il faut éviter que ce genre de choses se reproduisent et être attentif, donc tirer des leçons de l'histoire. Enfin, l'Uchronie, ce n'est pas, genre souvent aussi confondu, la politique fiction ou la science-fiction. Pourquoi je dis ça ? Parce que très souvent, tel ou tel critique trouve un livre publié il y a quelques années, décrivant par exemple, j'ai en tête ce livre allemand qui doit dater des années 80, et à l'époque il y avait une comète qui devait passer pas trop loin de la Terre. Et évidemment, ce livre a été publié en France 2 ou 3 ans après le passage de la comète, et ce livre décrivait que cette comète en fait percute la Terre. Une grande catastrophe, etc. Alors quand on lit ce livre au moment où il est publié en plus en France, on a envie de dire que c'est un livre chronique, puisque ça ne s'est pas produit. En réalité, l'auteur l'a écrit, comme souvent avec la politique fiction, dans les 6-9 mois avant le passage de la comète. Donc pour lui, dans son écriture, il s'agissait bien de se situer au futur et de décrire une catastrophe qui n'est pas encore arrivée. Il y a très souvent cette confusion, c'est même des fois extrêmement difficile de savoir, parce que encore faut-il connaître exactement la date de l'écriture. Mais enfin, pour le lecteur aguerri, j'ai envie de dire, il y a absolument aucune ambiguïté. Lorsqu'on lit une uchronie ou lorsqu'on lit une politique fiction, le ton est différent, la manière d'approcher les choses est vraiment différente, et c'est extrêmement facile, avec un peu d'expérience, de faire la part des choses. J'ai enfin dit tout à l'heure que négationnisme et uchronie étaient deux choses très différentes. Je vais quand même mettre un bémol. Dans mes différents ouvrages, j'ai volontairement mis dans une caisse chez moi, que j'appelle ma caisse noire, quelques ouvrages. Ils sont rares. De toute façon, à mon avis, d'une part, ils ne méritent pas d'être lus sur le fond, et quant à la forme, elle est au ras des pâquerettes. Des ouvrages souvent à compte d'auteur, qui sont effectivement à la fois les ouvrages du chroniste et du négationniste, en ce sens que quelqu'un imagine, par exemple, que De Gaulle est mort et que c'est Pétain qui a pris les rênes et que Vichy a perduré, patati patata. Donc, quand on lit ce genre d'ouvrage, on voit d'une part qu'il y a bien effectivement un point de divergence à l'histoire, mais qu'en plus la personne est quelqu'un de très pétiniste, et dont le propos est de montrer pourquoi le maréchal était beaucoup plus brillant que De Gaulle et pourquoi il avait raison de faire la guerre avec les Allemands. Donc je me suis permis, c'est un choix personnel, je l'assume complètement. Je n'ai pas brûlé les livres parce que je ne brûle pas les livres, mais je les ai mis dans ma caisse noire. Je me suis permis de ne pas les citer parce que je considère que leur contenu est effectivement négationniste et à titre personnel nauséabond. Voilà, mais ils sont très rares, et à ma connaissance, de toute façon, au sens même littéraire, ils ne cassent pas trois pattes à un canard, ou deux pattes à un canard, comme on dit, donc de toute façon, ils faisaient bien de rester à compte d'auteur. Je vais juste terminer, je serai dans mes temps, c'est parfait, en disant, là, si j'ai parlé de Napoléon, j'ai parlé de la Seconde Guerre mondiale, les écrivains ont des périodes de prédilection pour faire diverger l'histoire. Tout simplement d'abord parce qu'ils partent du principe que leur lectorat, à mon avis, a tort souvent, a des connaissances historiques pas trop élargies. Donc on ne va pas prendre la Saint-Barthélemy, faire diverger la Saint-Barthélemy, parce que finalement, peu de personnes ont l'air d'être férues dans l'histoire de la Saint-Barthélemy, au point de connaître toute la chronologie détaillée. Donc, souvent, on tape la Seconde Guerre mondiale. C'est facile. En plus, il y a plein de films. Alors, même si les gens ne connaissent pas la Seconde Guerre mondiale, ils peuvent se référer à leur connaissance cinématographique, au moins des grandes phases. En France, on aime bien Napoléon. Aux États-Unis, on se délecte des uchronies de la guerre de sécession. Et même des fois, il y a des véritables bijoux au sens précision des détails historiques, puisqu'on trouve tel ou tel colonel dans un rôle finalement pas si décalé de notre univers, mais qui permet donc de faire jouir le lecteur qui a une certaine connaissance de la période, du souci du détail, du souci de la cohérence historique. On reste donc finalement sur quelques grandes périodes. Les dinosaures aussi. Ça avait été relancé par les ouvrages de vulgarisation de Stephen Gould et de son approche de l'évolution des espèces beaucoup plus ouvertes, laissant place, comme il emploie souvent le terme, à la contingence, faisant remarquer que certes l'évolution peut-être darwinienne des espèces de plus en plus adaptées survivent, mais qu'en réalité, quand on regarde l'évolution des espèces dans une plus grande perspective, on se rend compte qu'il y a aussi des événements majeurs qui ne sont pas liés à la biologie, des événements cosmographiques, des événements peut-être géographiques ou météorologiques qui ont rayé à des moments donnés, lors de grandes phases pandémiques, ont rayé plusieurs espèces de la Terre qui étaient pourtant parfaitement adaptées, qui avaient toutes les bonnes raisons de survivre dans leur environnement, mais pour une raison X ou Y, peut-être que le Soleil a fonctionné différemment, peut-être que finalement une météorite est tombée, elles ont été rayées. Donc cette place à la contingence, qui est quand même quelque chose d'assez récent dans les approches de l'évolution espèce, plutôt au XXe siècle qu'on a commencé à avoir cette approche, qui est montrée d'ailleurs par de très nombreux fossiles. Hein. Donc, on a aux États-Unis des collections énormes de fossiles, d'espèces, de pans d'espèces complets, hein, au même titre que mammifères, reptiles. On a des pans carrément de familles complètes qui ont disparu à un moment donné et qui semblaient parfaitement adaptées. Donc évidemment, certains auteurs s'imaginent des mondes dans lesquels l'homme n'a jamais eu sa chance, et pour une raison bien évidente, c'est que ça a divergé bien avant que les premières souris apparaissent, et donc les mammifères dans ces univers-là n'ont pas eu de raison d'occuper le terrain. Voilà un petit peu pour les grands thèmes. La religion a également été un thème très, très exploité, je dirais, dans les années 50, 60, 70. Depuis peu, rares sont les courageux à le faire. Ben, notamment, il est plus facile de rayer Jésus de l'histoire que Mahomet aujourd'hui. Hein. Et puis rares sont les éditeurs à accepter. D'ailleurs, une Uchronie, j'en vois qui rigole au premier rang, parce que pour avoir lu leur texte, je sais qu'ils ont eu du mal à les placer. Aujourd'hui, effectivement, c'est très facile de faire de l'Uchronie sur la chrétienté. Le bouddhisme, je n'en ai pas vu beaucoup, parce que les Chinois et les Indiens en font peu. Écrire une Uchronie aujourd'hui qui rime Mahomet de l'histoire, imagine un autre développement. Je ne sais pas, et pourtant il y en a eu de très bonnes, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs qui prendraient le risque de les publier au risque de prendre une fatwa. Donc ça pose un problème aussi, qui est le problème de l'approche de l'histoire de manière générale. On le voit dans l'histoire en tant que tel, mais on le voit également dans les chroniques. Je pense que j'ai balayé parce que j'ai fait. C'était mon objectif, n'était pas de faire un cours magistral ce matin, d'autant que je n'ai pas réussi à prendre mon café. Hein, dans un univers parallèle, il y aurait eu du café, mais ce matin, il n'y avait pas de machine. Et je pense qu'Alain a également plein de choses intéressantes à dire. Donc, juste pour terminer, en France, récemment, il y a quand même eu des initiatives intéressantes. Donc, je mentionnais les éditions Pierre-Emmanuel tout à l'heure qui ont publié une collection d'Uchronies qui. Bon. C'est bien d'avoir mis le terme, d'autant que le numéro 1 et le numéro 2, c'était le Renouvier et le Geoffroy. Donc, j'en fais souvent de la pub, mais là, je vais faire une petite critique qu'ils connaissent. La plupart des ouvrages publiés ensuite sont des histoires secrètes, historiques et intéressantes, et même importantes, ou des politiques fiction, des guerres futures, comme on dit. Mais enfin, je sais qu'ils ont un programme également futur avec quelques uchronies rares. Donc, ils occupent le terrain en remettant accessible un certain nombre d'ouvrages pour les adeptes du genre, ou tout simplement les amateurs, qui étaient devenus quand même très difficiles à trouver ces dernières années. Sinon, bien sûr, plusieurs éditeurs ont publié régulièrement, et vous en verrez, je pense, plein sur les présentoirs divers et variés aujourd'hui à Sèvres. Je mentionnais tout à l'heure, et je pense que ça va me permettre de lui céder la parole, Alain, qui il y a quelques temps, 2 ans, 2, 3 ans, hein, quand on a commencé à discuter de ça, Alain qui depuis de très longues années écrit et édite pour la jeunesse, et était intéressé depuis très longtemps par le caractère pédagogique de l'Uchronie. J'interviens très souvent dans les écoles, les lycées, et il m'est même arrivé une fois d'intervenir en école maternelle pour parler d'Uchronie, comme quoi tout est possible. Y compris avec les jeunes, expérience fascinante d'ailleurs. Juste à titre, ça sera peut-être des questions tout à l'heure, je me suis permis de prendre un dessin animé de Babar qui est une uchronie de Babar, parce que ça existe aussi les uchronies de fiction, et ça a très bien marché, donc même sans employer le terme, contrairement à ce qu'on croit, des gamins de 4-5 ans comprennent très très bien le principe d'un univers parallèle divergent. Mais pour les adolescents, et c'est ça qui est intéressant, puisque l'Uchronie peut avoir un caractère de leçon de l'histoire, il nous semblait intéressant, il semblait intéressant à Alain depuis de nombreuses années qu'il en parlait, d'essayer de créer une collection qui s'adresse à ce public, qui respecte le principe alors là de l'Uchronie pure, c'est-à-dire vraiment historique, hein, c'est pas l'Uchronie barbare ou pas l'Uchronie avec la magie, ou avec ça existe aussi, mais avec des concepts qui quittent le domaine de l'histoire pure. Et qui permettent à ces adolescents ou à ces jeunes adultes, que nous restons tous un peu, à la fois le côté ludique de l'Uchronie, hein, c'est pour ça que ça marche bien aussi dans les interventions dans certaines classes, mais également le côté permettre à l'adolescent ou au lecteur, en tout cas, à travers un univers parallèle, d'avoir également accès à ce qui est changé, ce qui est modifié, donc à l'histoire. J'aime pas le terme réel, mais en tout cas l'histoire telle que nous la connaissons et se faisant se documenter. Et je pense que là, je vais me taire, parce que je pense que ce serait bien que tu complètes un petit peu ces propos.
Bonjour. Bon, c'est difficile de passer derrière le spécialiste du temps. Effectivement, moi, ça fait quelques années que j'écris et je suis passionné de science-fiction. Et un jour, il y a Aline Badowski, qui est la directrice générale de la jeunesse chez Flammarion, qui m'a dit, voilà, on voudrait une collection de science-fiction. Ce à quoi j'ai dit, pas parce qu'il y a déjà d'autres collections, Denis Guillot fait ça très bien, d'autres chez Mango, chez Syros, enfin bref. Par contre, ce qui m'intéressait effectivement, c'était de présenter une collection uchronique. Alors quand j'ai dit, je veux une collection uchronique, bien sûr, elle m'a regardé avec les grands yeux, qu'est-ce que c'est qu'uchronie, parce que bon, c'est vrai que ce mot-là est un peu barbare. Mais bon, ça s'intéressait bien avec la collection Castor Poche, qui est vraiment assez spécialisée dans nos livres historiques. Et comme là, il voulait de la science-fiction, bon, ben, j'ai dit, voilà, moi, je fais le lien avec les deux, avec la collection Uchronie. Donc, cette collection, je la voulais dès le départ, effectivement, Uchronie pure. Donc, pas d'univers parallèle. Vraiment, notre monde n'existe pas. C'est vraiment une divergence historique et on voit jusqu'au bout où on peut aller. Donc, j'ai parallèlement, j'ai demandé, il me fallait une tête d'affiche au départ. Donc, j'ai demandé à Pierre Bordage, qui a bien voulu commencer à ouvrir la collection. Et en même temps, parallèlement, j'ai fait une anthologie qui s'appelle Divergence 001, où j'ai donc réuni beaucoup d'auteurs français et qui m'ont écrit des nouvelles inédites. Et la seule nouvelle qui n'est pas inédite, c'est une nouvelle d'un Anglais concernant la conquête spatiale vue des Anglais. C'était très rigolo. Donc j'ai téléphoné à des amis. Pierre Pelot, pour commencer, qui m'a dit « Ouais, je t'en fais une chronique. » Et un quart d'heure après, je reçois un mail en disant « L'Arche de Noé a coulé. » Point. Donc, c'est vrai que c'était une chronique. Je lui ai dit « C'est bien, mais c'est un petit peu définitif et un petit peu court. » Donc, bon, c'était un amusement. Et voilà, tout le monde a joué le jeu. Et c'était bien sympa. Bien entendu, je me suis offert des services du spécialiste parce que il faut être humble, quand quelqu'un est vraiment spécialisé là-dedans, ben il faut lui demander. Donc il a bien voulu accepter de me faire une post-face sur cette anthologie. Il y a suivi Joan Elliott, je vais revenir en arrière pour le livre de Pierre Bordage. Pierre Bordage, lui, est parti du principe que la République a capoté et la royauté est revenue, et du coup, Jules Ferry, comme les autres, a été fusillé, donc l'école n'est pas obligatoire. Donc, ce qui arrange bien les élèves. Mais bon, ça les fait rêver. Seulement, donc, effectivement, Pierre a mis en place une société d'aujourd'hui, un peu noire, parce que l'éducation n'est réservée, bien sûr, qu'aux riches, à l'élite, pendant que les autres continuent à aller bosser en usine. Là encore, vous voyez, on peut traiter de l'Uchronie, on peut traiter une certaine science-fiction, une certaine fiction, tout au moins, alors que, bon, ce qui paraît très rigolo comme point de divergence est finalement le quotidien de millions d'enfants sur Terre qui, eux, travaillent dans les usines pour fabriquer nos baskets pendant que d'autres, une élite, effectivement, fait des études. Donc, Joan Elliott a suivi, il a suivi avec une histoire classique, parce que là aussi, moi, j'ai des contraintes. Tu parlais tout à l'heure qu'effectivement, l'histoire n'était pas forcément connue des lecteurs. Mais là, moi, j'ai des jeunes lecteurs. Donc, il faut absolument que les points de divergence soient vraiment connus au départ. Donc là, c'est très simple. C'est Louis XVI qui, au lieu d'être arrêté à Varennes, arrive à partir. Elle va aux États-Unis, en Montgolfière, et arrive et développe là-bas une société prospère qui servira finalement à reconquérir l'Europe. Elle-même a été prise par Napoléon, donc grâce à la Montgolfière. Avant tout, c'est effectivement de l'aventure, parce qu'il ne faut pas que le lecteur s'ennuie, mais en même temps, donc, les faire réfléchir à cette histoire qui est finalement fragile, qu'ils pensent être gravée dans le granit, et là, ils s'aperçoivent qu'effectivement, elle n'est que le concours d'une circonstance bien, bien précise. Et au-delà de cette histoire, en arrière, c'est une projection vers le futur, en disant que tous nos faits, nos gestes vont avoir une influence sur notre futur. Et je pense qu'on le voit bien aujourd'hui avec Copenhague, où les gens sont en attente, peut-être même plus que les politiques, sur un changement de société à travers cette grande réunion, cette grande messe qui découlera sur rien. Et à ce moment-là, peut-être que notre société changera plus tard, plus sérieusement, ou elle va changer aujourd'hui, et on voit bien qu'il y aura des conséquences importantes. Ensuite, Xavier Maméjean s'y est collé. Alors lui, il est parti du principe, le point de divergence, c'est que Alexandre le Grand, au lieu de trancher le nœud gordien, le défait. Il y passe 3 mois, mais il y arrive. Du coup, au lieu d'avoir mis sous sa coupe tous les clans vraiment d'une manière forte, là c'est par l'admiration que les clans vont se rallier à Alexandre le Grand, ce qui va lui donner une plus grande légitimité. Et du coup, au lieu de s'arrêter vraiment aux portes de l'Inde, où là tout le monde en avait marre, il voulait rentrer chez soi, et bien ils disent ok banco, et donc ils arrivent en Inde et conquièrent l'Inde, Et là se développe une société qui va être gréco-indienne, et non pas romaine. Et du coup, ça change effectivement notre devenir. Voilà. Bon, ensuite, c'est Daniel Martignol et moi qui colombe, hein, donc je suis en train de l'écrire. Je voulais pas écrire, je voulais pas. Je trouvais ça nul d'écrire dans sa propre collection. Mais bon, Flammarion m'a dit on s'en fout, des états d'âme, on veut un roman avec Daniel Martignol parce qu'on a l'habitude d'écrire ensemble. Et du coup, là, on n'a pas pris un point de divergence historique, on a pris un point de autre chose. Je voulais changer un peu, montrer que la divergence peut être autre que effectivement historique. Et ça, c'est le moment de la grippe espagnole en 1919. Et bien, il y a une altération de l'odorat. Les gens ne sentent plus de la même façon. Et on est en train de me montrer, enfin j'espère qu'on va y arriver, que la société va changer radicalement aussi à cause de la sens altérée.
Voilà. On va lancer les questions, je pense. Et pour les lancer, d'ailleurs, je vais être très polémique puisque c'est d'actualité. J'ai un peu suivi le débat actuel hein, sur les terminales scientifiques que j'ai eu l'occasion de faire à une autre époque. Alors moi, pour moi, l'Uchronie fait partie de la science-fiction en ce sens que l'histoire est une science. Donc je suis souvent effaré, je ne prends pas position sur le fond, mais sur les débats, je suis souvent effaré d'entendre opposer l'enseignement de l'histoire en terminale au fait qu'il s'agisse d'une terminale scientifique. Donc il y a quelque chose qui me choque profondément, puisque à titre personnel, pour moi, la science, l'histoire est finalement une science, et c'est bien par les méthodes scientifiques que les historiens en général travaillent. Donc de fait, l'Uchronie est souvent la seule expérience, comme dirait un chimiste, à la paillasse qu'ils peuvent réellement faire, parce qu'ils ne peuvent pas effectivement faire d'expérience réelle, ils ne peuvent la faire que par la pensée sur leur matière, puisque malheureusement elle est ce qu'elle est, et telle qu'ils la découvrent d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'elle était réellement comme ça. Voilà, c'est une manière un petit peu aussi de voir s'il y a des réactions ou pas. Maintenant, ce que je pense qui est intéressant, c'est d'échanger avec vous. A priori, on n'est pas pris par le temps, parce que je crois qu'après, c'est le repas. Donc voilà, donc, si quelqu'un veut ouvrir le feu.
Oui, j'ai appelé Divergence 001 en espérant qu'il y en ait une deuxième, bien entendu. Ce n'est pas encore d'actualité. C'est des taux de contingence. On a dit dès que l'année sera épuisée, on verra pour la 2. Quoi. Parce que, bon, effectivement, si les romans marchent bien, et forcément, les anthologies sont toujours un peu plus dures avant. Donc, ils attendent de ce côté-là, de savoir si la collection s'intéresse. Mais c'est un stade, je veux dire. Mais effectivement, si je l'ai appelé 001, c'est parce que la deuxième, je voudrais traiter, effectivement, que des thèmes qui ne sont pas historiques et montrer une avancée technologique ou un retard technologique.
Ça reste historique, mais c'est plus marxiste que événementiel.
Voilà. Et bon, effectivement, le côté géographie, enfin bref, événement extérieur à la Terre.
On va essayer de traiter. Hein. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, sinon.
Bon, bah.